6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extra-muros.
Extra-muros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extra.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de cette émission spéciale Extra-muros de Transistor enregistrée à l'agence Antenne Sud de Quimper.
Cette émission s'inscrit dans le cadre du dispositif L'Art d'accéder à l'emploi, un dispositif du ministère de la Culture qui permet aux demandeurs et demandeuses d'emploi de se remobiliser en travaillant leur expression et leur confiance en eux, au sein de lieux culturels partenaires. Tout cela dans un cadre collectif, bienveillant et valorisant. Des métiers et des sons est une action en collaboration entre la radio associative Transistor et France Travail, vers les demandeurs d'emploi du bassin de Quimper. Cette émission est préparée et réalisée par Aurélie, Heidi, Martine, Yann, Andy et Martin. Et nous sommes nous-mêmes demandeurs et demandeuses d'emploi.
Aujourd'hui, les curseurs ont bougé. Depuis la crise Covid, le marché du travail a évolué et malgré un taux de chômage plutôt faible en Finistère, des tensions et des difficultés persistent.
Dans notre émission, à travers trois thèmes importants que nous avons choisis, nous essayerons de voir comment les demandeurs d'emploi et les employeurs se rencontrent. Quels sont les freins? Quels sont les leviers de chacun? Tout au long de cette émission, nous vous donnerons à entendre des portraits sonores et autres créations réalisées par notre groupe. Tout de suite, le premier portrait sonore, celui de Yann.
Dans un restaurant de type brasserie au Guilvinec, c'était une expérience enrichissante. Si j'étais un son, je choisirais le bruit des vagues qui éclatent sur la côte ou sur la coque d'un bateau. Qu'est-ce que mes collègues disent de moi ? Que j'étais un très bon collègue de travail, déterminé et endurant. Le sel de ma vie, c'est de me promener en bord de mer ou de naviguer et d'être avec mes proches.
Premier sujet que l'on souhaite aborder dans cette émission, c'est celui du bien-être au travail. Cette question de bien-être dans son travail prend de plus en plus d'importance et les salariés comme les employeurs s'en saisissent. Pour les uns, elle est une condition de fidélité au travail. Pour les autres, elle est une question d'attractivité. Nous avons choisi ce thème car il nous semble vital, essentiel. En effet, par le passé, nous avons vécu des expériences qui nous ont affectés.
Nous vous proposons d'en parler avec nos invités. Madame Leroux, directrice de la SIAE, structure d'insertion par l'activité économique, les maraîchers de la Coudraye. Monsieur Thomas, directeur de l'entreprise de services à domicile Vitalliance, et Madame Lefouest, psychologue du travail France Travail. Et pour vous poser des questions, Heidi et Yann, bonjour à vous deux.
Bonjour. Avant de vous proposer un micro-trottoir réalisé sur ce sujet, il y a quelques jours, nous aimerions entendre votre définition du bien-être au travail. Madame Lefouest ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, le bien-être au travail, nous, au sein du réseau pour l'emploi, de la même façon que nous accueillons les entreprises dans leur parcours de vie, nous sommes là également pour accompagner les chercheurs d'emploi dans leur parcours de vie. Il est extrêmement rare que des demandeurs d'emploi franchissent la porte de France Travail de gaieté de cœur. Bien souvent, les personnes se présentent avec une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux-mêmes et une image d'eux-mêmes dégradée. Ce qui engage également un pouvoir d'agir altéré. Les inconforts peuvent être plus ou moins majeurs et entraver également leur dynamique d'insertion. Donc c'est en ce sens que nous sommes là pour accompagner des personnes dans leur parcours de vie, dans leur cheminement professionnel. Et donc nous sommes là pour réfléchir avec eux quelles sont les conditions selon lesquelles, en cohérence avec leurs forces, leurs valeurs, ils pourront évoluer professionnellement.
Monsieur Thomas.
Alors bonjour. Pour moi, le bien-être au travail, c'est déjà accompagner un maximum mes auxiliaires de vie, qui travaille pour mon entreprise, qui accompagne aujourd'hui des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. C'est être présent, à l'écoute des difficultés rencontrées. On organise des réunions de coordination, d'organisation, et on propose aussi des montées en compétences par des formations afin qu'elles se sentent le plus à l'aise possible pour évoluer au quotidien auprès des personnes en situation de handicap et D'accord. personnes âgées.
D'accord, merci.
Merci.
Madame Leroux ?
Alors moi, je n'ai jamais réfléchi à la définition du bien-être au travail, mais je dirais déjà de se sentir utile et puis de trouver un certain plaisir et du sens à ce qu'on fait. Je crois que c'est ça qui nous importe tous. Enfin, c'est une définition très simple, mais c'est la mienne.
Il y a quelques jours, nous avons tendu notre micro à la sortie de l'agence. Nous avons posé la question suivante. Sur une échelle de 1 à 3, à quel point le bien-être au travail est-il important pour vous ?
Du travail, quoi. L'ambiance d'équipe et la reconnaissance aussi de la direction et la bienveillance, en effet, de la direction.
Pour moi, c'est 3. C'est essentiel. Parce que pour que j'ai envie de me lever le matin pour aller bosser, faut pas que j'ai la boule au ventre. Faut pas que je me dise je vais tomber sur ce gars-là qui va me faire la misère. Donc, vraiment très, très, très important. On passe beaucoup de temps au travail. Donc, il faut que je m'y sente bien.
Le bien-être au travail ? Je dirais le plus possible. Donc, c'est sur une échelle de 10 ?
1 à 3.
2 à 3 ? Je dirais 3, du coup. C'est important, quoi. Après, si tu te plais dans un travail, oui, tu as envie plus d'investir et de rester et plus participer, je veux dire. Tu n'as pas envie de rester dans un environnement qui ne te plaît pas, quoi.
D'accord. Donc, t'as déjà vécu des environnements, justement, où t'as été mal ou...
Pour le coup, oui. C'était, en plus, le premier emploi que j'avais eu. On va dire que c'était pas vraiment une très bonne expérience. Et je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Mais s'il fallait refaire ça de mon propre chef comme ça, non. C'était vraiment parce que j'en avais besoin.
Je dirais 2. Il faut se sentir bien durant le travail, quoi. Il faut être à l'aise et... Et après, ouais, ça dépend aussi de plusieurs choses.
D'accord. Donc, pour vous, c'est important, mais c'est pas un point vital.
Non, je pense pas, non. Enfin, des fois, on a des obligations, c'est un peu, voilà, quoi. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même mieux de se sentir bien au travail, quoi. Mais après, de trouver son droit, d'être parfaitement bien dans son travail, c'est un peu compliqué d'en trouver, quoi, maintenant.
D'accord.
C'est vrai que tout le monde rêverait d'avoir un droit, de se sentir parfaitement bien dans son travail, mais faut voir la réalité en face, quoi.
3.
3, c'est très important pour vous ?
Oui.
Pourquoi c'est très important ?
Parce que si on est bien au travail, on a envie de travailler et c'est motivant d'avoir un cadre que l'employeur nous met en confiance au travail et qu'on soit bien à l'aise.
Est-ce que vous avez déjà expérimenté des expériences où justement ça n'a pas été le cas ou...
Non, après moi je suis saisonnière donc je suis très mal placée pour parler du bien-être au travail mais...
Non, vous êtes bien placée aussi. Hein,
Non, moi je n'ai jamais connu.
Vous êtes de retour sur Transistor, l'émission des métiers et des sons. Suite à ce micro-trottoir, on voit que le bien-être au travail est important pour les demandeurs et demandeuses d'emploi. Et on entend aussi que le travail ne rime pas toujours avec le bien-être. Qu'en pensez-vous ? Monsieur Thomas.
Je pense vraiment que c'est très important et primordial, le bien-être au travail. Il faut accompagner nos salariés du mieux possible, au quotidien, répondre aux problématiques, être présent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, à l'écoute, et voilà.
D'accord. Et Madame Leroux ?
Pour nous, c'est essentiel. Nous, on est chantier d'insertion en maraîchage bio. Donc, notre métier, c'est d'accompagner des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, ou qui sont bénéficiaires des minima sociaux, et donc de leur proposer de reprendre une activité, en l'occurrence en maraîchage bio, de reprendre un rythme de travail dans un cadre bienveillant et en étant accompagné, pour ensuite travailler avec nous à construire ou à reconstruire un projet professionnel pour se relancer dans le monde du travail. Donc nous, on est un tremplin, on accueille énormément de personnes qui n'ont plus confiance en eux, qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, mais qui n'ont plus confiance non plus dans le monde du travail, parce qu'il y a eu des expériences passées très difficiles. Donc ça fait partie de notre métier de redonner confiance dans ce monde du travail et de montrer qu'il y a des emplois qui sont... que le travail peut être épanouissant, que ce n'est pas difficile. Et que c'est pas forcément toujours dans un cadre malveillant. Ça peut être bienveillant. Ça peut être épanouissant. Ça peut donner une structure à sa journée, avoir un horaire. Ça peut structurer une vie. Donc le travail, c'est aussi, ça peut être positif. Donc nous, faut qu'on montre que tout ça est possible et faut que ce soit une réalité dans notre quotidien, que les gens se sentent bien.
D'accord.
Est-ce que cette question est un atout d'attractivité pour votre entreprise ?
Alors... Bah, nous, moi, je crois que j'ai répondu. Ça fait partie de notre métier. Ouais. Nous, c'est un peu spécifique, chantier d'insertion. Peut-être que M. Thomas peut en dire quelque chose. Nous, ça fait vraiment partie de notre ADN.
Nous aussi, on essaye de considérer ces choses-là importantes parce que on veut fidéliser nos auxiliaires de vie. Aujourd'hui, moi, ma difficulté, c'est le turnover sur le recrutement des moins de 4 mois, en fait. Celles qui ont de l'ancienneté, elles restent, il n'y a pas de souci, et on les accompagne. Mais sur le moins de 4 mois, on a un gros turnover. Et aujourd'hui, on a
changé. Le turnover, c'est le changement.
Le changement, les démissions, les départs. Donc du coup, nous, aujourd'hui, on a changé notre process de recrutement et d'accompagnement et d'intégration. Aujourd'hui, avant, on recrutait dans l'urgence, on les faisait travailler, on les recrutait le mercredi pour commencer le jeudi. Aujourd'hui, on les recrute, elles commencent toutes le lundi à 10h du matin, par venir en agence, un accueil en agence avec pain au chocolat, café, on leur présente l'entreprise et elles passent 2 heures en agence. Ça fait partie d'une bonne intégration, je pense, qu'elles se sentent considérées dans l'entreprise. C'est pas vous n'êtes pas un numéro quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous commencez dans une entreprise. Ensuite, sur cette semaine-là, on fait que des binômes. Donc elles travaillent en binôme avec des auxiliaires de vie, avec différents auxiliaires de vie, qui leur partagent leurs différentes expériences et façons de faire. Sur la semaine, et en fin de semaine, on fait un bilan. On les appelle, on fait un bilan par téléphone, on voit les difficultés rencontrées, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. La semaine suivante, elles commencent à travailler en autonomie. Et ensuite, chaque semaine, on fait un bilan téléphonique pour savoir comment ça se passe. Au bout d'un mois, on réalise un entretien en agence, de nouveau, pour savoir si elles se sentent bien. Toujours pareil, pour reconnaître les difficultés rencontrées et ce qu'on peut faire pour améliorer leur quotidien et que vraiment, elles se sentent bien au travail. Nous, on travaille vraiment avec des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, dépendantes. Et elles ont besoin de nous, c'est un métier essentiel. Et il faut que les personnes qui travaillent avec nous se sentent bien et à l'aise dans leur quotidien.
Et ça, c'est des choses que vous avez décidé de mettre en place, enfin de renforcer depuis combien de temps à peu près ?
Là, ça fait 15 jours qu'on est parti sur ce nouveau process parce qu'on s'est aperçu qu'on avait vraiment un gros problème de turnover. Cette méthode a été inspirée de la DR, enfin la direction régionale de Normandie qui est venue sur l'agence de Quimper. Et on a pu échanger là-dessus sur ce turnover qui était vraiment trop important sur mon agence. On rayonne vraiment sur tout le sud Finistère. Nous, on n'est pas que sur Quimper, vraiment, on est sur tout le sud Finistère. On va jusqu'à Quimperlé, jusqu'à Douarnenez, Châteauneuf-du-Fou. Donc on sectorise aussi nos recrutements pour éviter aux auxiliaires de vie d'avoir trop de routes à faire pour se rendre chez les bénéficiaires.
D'accord, merci à vous.
Quels en sont les retours ?
Par rapport à justement, est-ce que vous avez déjà... c'est récent, hein, donc vous venez de le dire, mais vous avez déjà peut-être un système d'évaluation un peu, ou alors les retours des personnes concernées ?
Bah là, c'est assez récent. Après, je pense que ça va payer dans les mois à venir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que se sentir bien intégré dans une entreprise permet aussi de se sentir à l'aise et de pouvoir lier contact avec l'agence et à savoir qu'il y a des personnes ressources. Après, nous, on a un système aussi de chat sur notre logiciel lié à notre application. Et donc, ça leur permet d'échanger avec d'autres collègues qui travaillent sur les mêmes situations et les mêmes accompagnements.
Et vous évaluez comment la qualité du dispositif que vous avez mis en place ?
En échangeant avec les personnes recrutées dans l'entreprise.
Et vous, Madame Leroux ?
Alors, chez nous, la manière dont ça se traduit, je pense que c'est une attention portée au profil de chacun. On essaye de prendre en compte les personnalités de chacun, les facilités, mais aussi les problématiques de chacun pour essayer de donner la bonne place à chaque personne au sein de la structure. Dans la mesure du possible, on peut adapter les postes parce que chez nous, on est nombreux. Enfin, c'est une ferme. Hein. Nous, on produit des légumes bio. Mais la particularité par rapport à d'autres fermes, c'est qu'on est très nombreux. Donc, on a la possibilité d'adapter certains postes pour vraiment faire du sur-mesure. Donc, les gens, je pense, ils trouvent du bien-être à ce niveau-là. Après, c'est aussi le temps qu'on laisse à la vie collective. Les temps de pause, le feu le matin en cette période d'hiver là, qui réchauffe un peu tout le monde. Les temps de repas collectif qu'on fait une fois par semaine. On a des salariés qui cuisinent pour tout le monde à tour de rôle. Puis c'est un temps de vie collective que tout le monde apprécie. C'est de la chaleur humaine, quoi, parce que on peut tous avoir des problématiques dans nos vies personnelles. Parfois, il y a des salariés qui sont isolés, entre guillemets. Donc, chez nous, ils vont retrouver cette chaleur-là. Ils vont tisser des liens qu'ils vont garder par la suite, des amitiés, etc. Donc ça, pour moi, ça fait partie du bien-être. Après, ça, c'est... On a aussi des salariés permanents en CDI, des responsables de culture, encadrants techniques, une conseillère en insertion socioprofessionnelle qui aide les salariés à avancer dans leur projet, dans la construction de leur projet. Donc c'est comme Monsieur Thomas, il faut aussi que chacun, même les permanents, faut qu'ils se sentent bien pour stabiliser l'équipe qui encadre tout ce travail-là. Parce que sinon, si on change les permanents tous les ans, ça ne fonctionne pas. Donc il faut aussi que les permanents ils trouvent leur compte. Et ça, c'est... chez nous, par exemple, on est tous à 4 jours par semaine.
Madame Le Fouest, à France Travail, vous êtes un observatoire un peu de ce qui se passe à la fois tant au niveau des demandeurs d'emploi que des entreprises. Est-ce que cette question du bien-être au travail, c'est quelque chose qui semble concerner les entreprises avec qui vous êtes en contact ?
Alors, je pense que tant ça concerne les entreprises, effectivement, et on le voit bien dans la démarche d'intégration des salariés, dans la démarche effectivement de maintien dans l'emploi des salariés, et ça concerne également les chercheurs d'emploi que nous accueillons. Et on voit bien que c'est ce regard hein, sur cette démarche collaborative, entre les entreprises, les salariés, la vie de l'entreprise, la vie des salariés. C'est aussi effectivement ce qui peut permettre d'heureuses rencontres et la sécurisation des parcours et des entreprises et des salariés et des chercheurs d'emploi.
Eh bien, merci à vous pour vos réponses. Je vous propose maintenant une petite pause avec un nouveau portrait sonore de notre création, celui de Heidi.
Qu'est-ce que j'ai appris à faire ? J'ai appris à gérer, organiser et accompagner. Ma formation en comptabilité m'a donné la rigueur, mais la vie m'a surtout appris l'écoute, l'adaptation et la persévérance. J'ai développé des compétences en administratif, communication, marketing et relationnel. Ce que j'aime, c'est le contact humain, la créativité et le fait d'être utile. Quelle est ma dernière expérience professionnelle ? Mon stage d'immersion à la Maison de l'Avenir a été un véritable coup de cœur. J'y ai découvert un domaine qui me passionne, la construction écologique. L'équipe, ouverte et positive, a rendu l'expérience stimulante. Travailler sur des projets de communication et de marketing a confirmé que ce secteur sont faits pour moi. Ce stage m'a aussi aidé à reprendre confiance en moi, à réaliser que je suis polyvalente et que j'apprends vite. Aujourd'hui, je veux m'orienter vers des postes qui allient écologie, communication, marketing et humain. Si j'étais un son, je serais le bruit de la mer, apaisant mais puissant, toujours en mouvement. Quel est le sel de ma vie ? Voir mon entourage et les autres heureux.
Vous êtes à l'écoute de l'émission des métiers et des sons présentée par Aurélie, Heidi, Martine, Yann et Andy, demandeurs et demandeuses d'emploi sur le bassin de Quimper. Et nous parlons de questions qui nous semblent importantes dans nos démarches. Nous poursuivons cette conversation avec nos invités, Madame Leroux, directrice de la SIAE Structure d'insertion par l'activité économique Les Maraîchers de la Coudray, Monsieur Thomas, directeur de l'entreprise de services à domicile Vitalliance, et Madame Le Fouest, psychologue du travail France Travail, autour de la question du recrutement, point névralgique de la rencontre entre le ou la demandeur et demandeuse d'emploi et l'employeur. Je laisse à présent la parole à Yann et Heidi.
Comment recrutez-vous dans vos entreprises, Monsieur Thomas?
Alors nous, on est en recrutement toute l'année, donc c'est-à-dire qu'on diffuse sur une multitude de sites d'offres d'emploi. On travaille beaucoup avec France Travail. Je suis aussi venu cette semaine faire une présentation de mon entreprise à des demandeurs d'emploi. On va à la rencontre des gens, on fait des job boarding. Et c'est hyper important.
Vous pouvez préciser ce qu'est un job boarding?
C'est ce que j'ai fait l'autre jour ici chez France Travail. C'est vraiment présenter mon entreprise, présenter notre secteur d'activité, présenter nos missions. Ça m'a permis, notamment lundi, de pouvoir rencontrer certaines personnes dans un bureau par la suite et d'échanger avec eux, et de pouvoir proposer aussi des immersions en contractualisant les choses avec France Travail et pouvoir venir découvrir le métier sur une semaine et savoir où on va, quoi. C'est très important, quand on se lance dans un secteur d'activité, de savoir où on va, de connaître les choses. Et je pense que les immersions, c'est important, ça permet de savoir où on va. Et nous, on peut vous accompagner quand vous êtes totalement novice avec notre centre de formation au diplôme d'auxiliaire de vie. Et on vous accompagne, c'est une formation qui dure sur 13 mois avec notre centre de formation qui s'appelle Unifadom. Alors sur Quimper, je ne suis pas centre de formation, donc on a la possibilité de vous envoyer sur Brest, enfin d'envoyer les demandeurs d'emploi sur Brest ou Lorient, avec une prise en charge des frais kilométriques et des repas le midi. Et au bout de 13 mois, vous passez le diplôme et vous êtes un diplôme reconnu au niveau national et vous êtes auxiliaire de vie.
D'accord. Et vous, Madame Leroux, comment recrutez-vous dans votre entreprise ?
Chez nous, c'est un peu particulier. En tant que chantier d'insertion, les salariés doivent être éligibles à un contrat d'insertion. Donc, il faut remplir certains critères. Et les candidats nous sont orientés par des prescripteurs. Nos partenaires emploi, France Travail, la mission locale, Cap Emploi, le conseil départemental ou d'autres prescripteurs divers. Donc on reçoit ces candidatures sur un outil, une plateforme web, peu importe la plateforme de l'inclusion. Ensuite, quand un poste se libère, on reçoit plusieurs candidats, on fait une information collective, on explique le fonctionnement du chantier, le poste de travail, on répond aux questions, et puis ensuite on fait visiter la ferme et on fait des entretiens individuels avec chacun. Voilà, donc ça c'est le process qui s'applique à peu près dans tous les chantiers d'insertion du territoire. On a tous un peu la même manière de faire.
D'accord, merci. Et quelles sont les principales attentes vis-à-vis des candidats et candidates ?
Alors, le critère permanent, on va dire, c'est vraiment la motivation, double motivation. Travailler au champ, parce que c'est le maraîchage, faut aimer être dehors, travailler par tous les temps. Faut être attiré par ces métiers-là, donc motivation à travailler en maraîchage, mais aussi motivation à travailler sur son projet, parce que nous, c'est notre objet, est d'accompagner la personne à retravailler son projet professionnel, à effectuer des stages, des enquêtes métiers, etc. Donc il faut avoir cette double motivation, quoi. C'est pas un job comme un autre, entre guillemets. Et après, on a des critères particuliers selon les périodes de l'année. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes qui ont le permis de conduire pour assurer les livraisons. Si à certains moments dans l'année, il nous manque des personnes avec permis, on va être obligé d'orienter. Ou alors de recruter plutôt un homme qu'une femme pour essayer de rééquilibrer, parce qu'on a l'objectif d'être à parité sur le chantier, autant d'hommes que de femmes. Donc on peut être amené à rééquilibrer. On aime bien aussi avoir une équipe très hétérogène en termes de profil, en termes d'âge, de parcours. Donc ça peut jouer en ligne de compte, mais ça, c'est vraiment... ça dépend des moments de l'année, quoi.
D'accord.
Et Monsieur Thomas ?
Comme Madame Leroux, je pense que la motivation est primordiale dans un recrutement. Mais la suite, en fait, c'est que il y a un entretien, vous montrez, enfin vous pouvez montrer, je vise personne, vous pouvez montrer votre motivation. Un entretien, c'est rapide, ça dure une heure, voilà, ça peut aller très vite. Je pense que c'est par la suite, c'est au quotidien aussi que vous montrez votre motivation. La ponctualité, la disponibilité, c'est ce qui va nous permettre aussi de voir que bah, vous êtes motivé, que vous avez envie d'avancer avec nous et qu'on peut vous faire confiance et vous donner plus de missions.
D'accord. J'ai une petite question. Souvent dans les entretiens, on nous pose la question, en fait, pourquoi vous, en tant que candidat, et pas un autre candidat ? Qu'est-ce qui est la meilleure réponse, en fait ?
Elle est compliquée, c'est la question.
C'est compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Le tout, c'est de donner une réponse, quelle qu'elle soit. Et après, c'est l'employeur qui en fera ce qu'il voudra. C'est ça. Après, il n'y a pas de piège. Je pense que voilà, il faut être naturel à un entretien. Oui. Il faut aussi arriver préparé, en fait. Je pense aussi. On n'arrive pas à un entretien sans connaître le secteur d'activité, l'entreprise dans laquelle on intervient. Je pense que c'est important d'arriver préparé à un entretien. De connaître, de savoir où on met les pieds, quoi.
Oui. Ah, merci.
Faut-il relancer les entreprises après un entretien ? Pour vous, monsieur Thomas ?
C'est important, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Donc, comme je vous ai dit, on est en recrutement toute l'année. Des fois, il y a des CV super intéressants, des entretiens qui sont très bien passés, et on les conserve, nous, dans ce qu'on appelle un vivier. Lorsqu'on a beaucoup d'interventions qui arrivent d'un coup, on rappelle les gens qui sont dans notre vivier. Donc c'est très important.
D'accord, merci. Et pour vous, Madame Leroux ?
Oui, je dirais la même chose. Ça montre une certaine motivation et un suivi. Non, non, ça peut être que positif.
Merci. Et comment lisez-vous un CV ? Et d'ailleurs, est-il vraiment important pour vous ?
Très important, le CV. Vous avez la chance avec France Travail d'être suivi et de pouvoir faire évoluer votre CV. C'est important qu'il soit à jour. Enfin, j'insiste là-dessus, c'est très important. Il y a un CV qui n'est pas complet. Il y a des candidatures, c'est une photo du CV. Enfin, pour moi, c'est quand on fait des choses comme ça, ça montre pas un investissement, en fait. Je pense qu'il faut vraiment envoyer le CV, la lettre de motivation et montrer qu'on est intéressé par le travail. C'est comme ça qu'on tire son épingle du jeu et que l'employeur peut potentiellement vous recruter.
Donc plus un CV soigné, bien...
Je ne dis pas forcément soigné, très développé, avec des dessins, voilà, mais quelque chose où toutes vos expériences professionnelles sont indiquées. Moi, quand on m'envoie un CV et que je vois que depuis 2022, par exemple, vous n'avez pas eu de travail, et puis finalement, on vous voit en entretien, et puis vous me dites, bah si, en 2023, j'ai fait ça, en 2024, j'ai fait ça, pourquoi ça ne paraît pas sur votre CV ? Ça me semble important.
Mais justement, vous parlez justement qu'il peut y avoir une période où ce n'est pas indiqué, qu'il n'y a pas d'activité, mais est-ce que voilà, l'entreprise le prend en compte positivement ou négativement ?
Moi, je ne m'arrête pas à une période d'inactivité. On a tous des hauts, des bas au quotidien. Donc voilà, on peut avoir des périodes d'inactivité. Ce n'est pas un frein en soi, d'accord, pour moi.
Okay. Et Madame Leroux ?
Bah, c'est vrai qu'il faut que le CV soit complet, qu'on ait toutes les informations, toutes les dates. Parfois, nous, on reçoit des candidatures via notre outil en ligne sans CV. Bon, là, c'est un problème quand même, parce qu'on peut pas savoir qui est derrière, quoi. Donc là, on demande quand même d'avoir le curriculum à jour. Après, nous, on va plutôt se poser la question de savoir comment le chantier va pouvoir aider cette personne-là. C'est encore très spécifique, quoi. Est-ce qu'en fonction du parcours de la personne, elle va pouvoir se saisir des outils que nous on lui propose sur le chantier et que ça va vraiment être utile. Donc c'est pas tout à fait la même logique que dans un recrutement traditionnel, conventionnel.
Mais là, ce serait peut-être plus la lettre de motivation qui va vous répondre.
On n'a pas toujours de lettre de motivation et ça nous arrête pas. Mais encore une fois, parce qu'on passe par cet outil-là où il y a déjà un argumentaire qui est proposé par le prescripteur, par la personne qui accompagne le demandeur d'emploi, qui explique sa situation, ou alors c'est la personne en direct qui nous l'explique. C'est pas la forme traditionnelle de la lettre de motivation et c'est pas forcément grave. Mais encore une fois, si je recrute un permanent sur un poste de comptable, je vais demander la même chose que monsieur Thomas, c'est la lettre de motivation, enfin le truc un peu plus traditionnel, quoi.
D'accord. Et quand vous recevez un candidat, est-ce que vous faites attention à sa posture et à sa gestuelle ?
Forcément, la posture, enfin, déjà arriver à l'heure, un entretien.
Oui, c'est, alors ça, c'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses.
Oui, c'est, effectivement.
C'est la ponctualité, c'est très très important pour nous. On s'organise pour pouvoir vous recevoir en entretien, donc il faut arriver à l'heure. Après, la posture, c'est sûr que c'est important. Et ça montre un professionnalisme et qu'on a envie de travailler. Et puis, c'est très important de se tenir droit. Après, nous, on fait un accueil assez chaleureux. On vous propose un café quand vous arrivez. Oui. On essaye de détendre l'atmosphère. Parce qu'on sait que c'est jamais simple d'arriver à un entretien. C'est stressant. Pour certains, sont demandeurs d'emploi depuis très longtemps. Donc, on sait que c'est stressant, c'est angoissant. Mais après, il faut savoir que l'employeur n'est pas là pour vous déstabiliser. On est là pour vous entendre et échanger sur votre parcours professionnel et pouvoir potentiellement vous recruter.
D'accord. OK. Eh ben, merci à vous pour vos réponses.
J'ai aussi une question pour vous, parce que là vous parlez de CV, mais je sais qu'il existe d'autres moyens de recrutement. On parle bien sûr de job dating, où on va justement rencontrer, que ce soit vous ou d'autres personnes de votre entreprise, pour pouvoir avoir un premier échange. Des fois c'est aussi comme ça qu'on peut justement rentrer dans l'entreprise. Mais je sais qu'il y a aussi des mises en situation aussi. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous mettez ça en place ? Je veux d'abord vous demander à vous, monsieur Thomas, si vous êtes d'accord.
Alors, ça fait partie de notre process lors de l'entretien de recrutement. Oui, on va vous proposer 3 mises en situation. Donc, savoir comment vous allez réagir. Encore une fois, il n'y a pas de piège. C'est de savoir comment vous allez réagir par rapport à certaines situations. Mais ce n'est pas un piège. C'est vraiment... Et il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait.
D'accord, merci. Et du coup, vous, madame Leroux ?
Pour nous, il n'y a pas de mise en situation à proprement parler, mais on participe à des forums. La semaine dernière, il y avait un forum insertion par l'activité économique à Pénars, on était présents. Donc on a invité des gens intéressés à venir visiter la ferme, par exemple, au mois de janvier. Après, j'ai dit pendant les informations collectives, on fait des visites de la ferme. Donc ce sont des collègues qui guident les candidats et qui leur montrent la ferme. Donc là, ce qui est important pour nous, c'est est-ce qu'ils se sont montrés intéressés ? Est-ce qu'ils ont posé des questions ? Ça montre un intérêt.
D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour vos réponses. Par ailleurs, à France Travail, il existe un dispositif permettant de travailler cette rencontre avec l'employeur. Il s'agit de Vision Entreprise. On écoute à présent Anna Bruges, conseillère à l'emploi, animatrice de l'atelier, et elle répond au micro d'Heidi.
Alors, c'est un nouvel atelier là, qu'on teste là, depuis plusieurs séances. L'objectif, c'est d'aborder les outils de la recherche d'emploi, donc le CV principalement, l'entretien, donc de parler de tout ça, mais en se mettant à la place des recruteurs. Qu'est-ce qu'il va regarder sur les CV ? Qu'est-ce qui va être important de repérer ou pas pour un employeur ? On a l'éclairage donc, de l'équipe entreprise, qui est là, qui anime l'atelier aussi. Donc on est, il y a 2 conseillères entreprises et moi-même sur la partie accompagnement demandeur. Puis donc on est 3 à co-animer. D'accord.
Donc à qui s'adresse en fait cet atelier et comment ils peuvent y participer ?
Le public de cet atelier, c'est toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi salarié directement, donc des personnes qui postulent à des annonces. On n'est pas sur une réflexion sur un projet professionnel, hein, il faut que l'objectif soit bien clair. Les personnes savent ce qu'elles ciblent comme poste. Donc voilà, c'est simplement ce critère-là. Et comment faire pour participer ? Il faut que les personnes en parlent à leurs conseillers, leurs conseillères. Parce que là, on a fait une première session, on va faire le bilan là, la semaine prochaine, on va voir dans quelle mesure ça a répondu aux besoins des participants et puis on décidera si on crée une nouvelle session. Donc si une nouvelle session démarre, on pourra accueillir un nouveau groupe.
D'accord. Donc du coup, vous n'avez pas encore des retours de cet atelier ?
Si, on voit que ça fait... Là, on est sur la troisième séance. Donc, on voit que les personnes reviennent déjà, qu'il y a beaucoup d'échanges entre elles. On a eu des retours individuels aussi, avec des remerciements. On voit que les personnes aussi avancent, modifient un peu leurs outils. Il y a vraiment une réflexion qui se met en place dans le groupe. Donc, pour nous, c'est un retour positif. Mais après, on attendra d'avoir les retours individuels.
D'accord. Et combien de temps dure l'atelier ?
Alors, on a prévu 4 matinées, donc de 9h à midi à chaque fois, même souvent midi et demi, sur 4 sessions. Ça a une semaine d'intervalle. On va dire ouais, ça s'étale sur un mois à peu près. 4 séances sur un mois.
Pour l'instant.
Et combien de personnes peuvent y participer ?
Là, on a commencé le groupe, il y avait 11 participants, on s'était dit 12 maximum, donc c'était 11. Là, on a 3 personnes qui ont retrouvé du travail déjà, donc on a un peu moins, mais voilà. C'est à peu près la taille du groupe, entre 10 et 12 personnes, c'est l'idéal.
Pour parler un peu plus de cet atelier, nous accueillons 2 bénéficiaires, Catherine et Pauline, qui y participent. Pauline, où en êtes-vous en tant que votre parcours de demandeuse d'emploi ?
Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que je suis arrivée en étant sur une piste et l'atelier m'a fait changer de piste.
D'accord.
Voilà. Moi, je suis dans une phase de gros virage professionnel. C'est une reconversion, un 360 complet, ou un 180, suivant comment on veut voir la chose. Donc là, je suis moins dans une dynamique de candidater et plus dans une dynamique de recherche d'immersion. C'est-à-dire que je reprends un peu le sujet à zéro en essayant de vérifier si les pistes, le potentiel qui a été détecté au cours de cet atelier Vision Entreprise est pertinent pour la
D'accord.
suite.
Donc peut-être prévoir des stages d'immersion éventuellement.
C'est ça, c'est l'idée.
Ouais. D'accord. Et vous, Catherine ?
Alors, moi aussi, je suis en reconversion. Donc par contre, à différence de Pauline, c'est que j'ai fait une formation donc de quelques mois qui m'a donné un diplôme et là, je suis en recherche de travail. Donc je postule, j'ai eu des entretiens, mais pour l'instant, ça n'a rien donné.
D'accord.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cet atelier ? Cela correspondait à quel manque ?
Ben, moi, je trouve aussi que l'énergie d'un groupe comme ça, ça fait du bien de parler avec des personnes qui ont leur expérience, leur... le partage, l'énergie, tout ça, je trouve que ça, c'est positif. Et puis après, il y avait aussi le CV, quoi. Donc pour avoir des aides pour construire son CV, clair, précis. Et comme c'est des personnes qui sont en contact avec les recruteurs, donc du coup, ça nous met bien.
Et Pauline ?
Pour moi, en fait, ce qui m'a attirée dans cet atelier spécifiquement, c'est que ça faisait très longtemps que je n'avais pas cherché de travail de manière classique. C'est-à-dire avec, on envoie un CV, on envoie une lettre de motivation. Voilà, je sortais de 20 ans d'activité avec énormément d'entretiens pour des contrats, mais j'étais plus du tout dans un processus de recrutement classique. Et donc je suis revenue à la fois dans un secteur géographique et dans un secteur d'activité que j'avais besoin de comprendre. En termes de protocole de recrutement, j'avais besoin de comprendre quelle était la vision de l'entreprise sur le recrutement actuel. Entre autres parce qu'on se fait une montagne de l'intelligence artificielle et quand on gratte un peu, on se rend compte que finalement, elle existe. Il faut savoir l'utiliser avec justement discernement et intelligence, mais que ce n'est pas nécessairement si présent que ça dans les processus de recrutement et qu'on reste quand même sur beaucoup quelque chose de la relation humaine.
Oui.
Donc ça m'a permis de conforter mes propres expériences, puisque j'ai eu aussi l'occasion, dans des expériences antérieures, de participer à des processus de recrutement. Et je trouve que le fait d'apporter la vision recruteur, ça permet complètement de changer le prisme aussi, par lequel on réfléchit à la candidature et à la recherche d'emploi. On peut très facilement tomber, quand on est en recherche d'emploi, dans le « il y a eux et nous ». Il y a une opposition et du coup ça crée une grosse distance entre le recruteur et le demandeur d'emploi. Le fait de renverser cette vision-là et de rencontrer des recruteurs ou des spécialistes du recrutement, ça démystifie un peu le truc et oui. Ça permet de revenir à quelque chose de concret.
Ok, merci. Et qu'est-ce qui vous a semblé utile dans cet atelier ?
Catherine, peut-être ?
Comme je disais tout à l'heure, revoir le CV pour bien savoir se vendre, hein, parce que c'est le but. Et puis, comme je disais, l'échange, quoi, ça, c'est très positif. Il ne faut pas rester seul dans la recherche d'emploi, parce que c'est des moments qui sont clés dans la vie, donc il faut s'ouvrir aux autres.
Et comment envisagez-vous l'après-atelier ?
Un an, je passe. moi, là, je suis dans des démarches actives de recherche d'immersion. Donc, l'après-atelier, en fait, pour moi, le challenge, c'était de ne pas avoir... Quelqu'un en avait parlé à la fin de l'atelier, je ne sais pas si tu te souviens. Quelqu'un avait dit, moi, j'ai très peur de retomber un peu dans cet effet de flottement vaguement dépressif de je cherche du boulot, mais c'est compliqué en ce moment. Et donc, moi, ce que cet atelier m'a apporté, c'était justement une reprise de dynamisme, en fait. Donc là, je suis dans des démarches actives. Elles déboucheront ou pas. Mais voilà, il y a une reprise de confiance. L'effet de groupe, effectivement, dont parlait Catherine, était formidable. Et puis des nouveaux contacts et des nouvelles possibilités, quoi.
D'accord, merci.
Merci. Et écoutons maintenant le portrait sonore d'Aurélie.
Ce que j'apprends lors de ma formation de comportementaliste canin, j'apprends à évaluer une situation afin d'améliorer la relation entre l'humain et le chien. La formation me permet d'améliorer ma prise de recul et ma capacité d'adaptation. Lors de ma dernière expérience professionnelle, ce que j'ai aimé, en tant qu'hôtesse de distribution de flyers, ça a été le contact avec les gens. Plus précisément, quelques instants où les gens ont pris le temps de s'arrêter et de papoter. Autre chose que j'ai apprécié, travailler dehors avec le beau temps et travailler avec une collègue fort sympathique. Si j'étais un son, je pense que je serais un bruit de forêt où les oiseaux chantent, le bruit d'une rivière tranquille et par moments, le vent souffle. Pour moi, une forêt représente la vie. Et tout comme moi, elle change, évolue selon les saisons. Elle peut être plus calme ou mouvementée. Le sel de ma vie, le sel de ma vie, ce sont les moments de partage avec ceux qui sont chers à mon cœur. Et aussi profiter des bonheurs et des plaisirs de la vie, qu'ils soient petits comme grands.
Bien, vous êtes bien sur la radio Transistor, à l'écoute de l'émission Des métiers et des sons. Une collaboration de France Travail, Antenne Sud de Quimper, et la radio associative qui s'installe à Quimper. On poursuit notre programme avec un billet poétique ou billet d'humeur, et c'est dit par Martine.
Galère du chômeur. Être au chômage, c'est un travail. C'est se remettre d'un emploi précédent ou trouver un premier travail en espérant que la formation acquise convienne au marché. C'est rencontrer un conseiller et devoir expliquer son parcours pro et aussi personnel. C'est être confronté à beaucoup de démarches administratives lentes et fastidieuses. C'est attendre des réponses au CV envoyé. C'est parfois, selon ses ressources, devoir faire l'impasse sur la voiture. C'est aussi affronter le regard des travailleurs et se sentir en marge de la société. Parfois, en plus de tout cela, viennent s'ajouter des problèmes de santé. Selon son âge, son parcours de vie, le corps a pu s'abîmer. Cela demande une nouvelle adaptation et orientation pro pas toujours évidente à accepter. L'impact psychologique est important. L'isolement, avec la diminution des revenus. Une perte de confiance en soi naît souvent suite à l'arrivée au chômage. Il est aussi difficile d'expliquer un trou dans le CV, devoir expliquer pourquoi c'est souvent revivre les moments difficiles de la vie. Voilà un aperçu du quotidien d'une demandeuse d'emploi.
Merci Martine. Dernier sujet que l'on souhaite aborder dans cette émission, c'est celui de la santé mentale. De nos jours, et suite à la crise sanitaire, la santé mentale au travail a pris une place importante.
on ne compte plus le nombre de burn-out, de dépression révélés dans le cadre du travail. Nous avons choisi ce sujet car il nous touche particulièrement. Que ce soit par le passé ou actuellement, nous y sommes confrontés.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé mentale correspond à un état de bien-être qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. Elle a une valeur en soi et en tant que facteur favorable et fait partie intégrante de notre bien-être.
À présent, échangeons autour de ce sujet avec Madame Leroux, directrice de la SIAE Structure d'insertion par l'activité économique, les marchés de la Coudray, Monsieur Thomas, directeur de l'entreprise de services à domicile Vitalliance, et Madame Lefouet, psychologue France Travail. Oui, je laisse la parole à Heidi et Yann pour poser les questions.
D'accord. Quelle est votre définition de santé, madame, Madame Lefouest ?
De santé mentale.
On s'embrouille.
C'est, donc, la santé mentale, ça fait partie de la santé. La santé mentale, ne renvoie pas nécessairement à la santé psychique. La santé mentale, c'est quelque chose qui est invisible. De la difficulté, effectivement, d'être légitime, parfois, à aller mal, à être reconnu dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent. La santé mentale, et ça renvoie à ce que j'évoquais au début, cette notion, effectivement, également de bien-être, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les chercheurs d'emploi, les personnes qui arrivent au réseau pour l'emploi se retrouvent bien souvent dans des situations contraintes, non choisies, en lien avec des éléments de santé, des éléments autres de parcours de vie, et que cette porte, elle est franchie rarement de gaieté de cœur, et que ces personnes arrivent souvent avec une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux-mêmes dégradée. Un pouvoir d'agir altéré, et que cette santé mentale, elle est aussi à prendre en compte lorsque nous les recevons, lorsque nous les accueillons, parce que au-delà d'accueillir des chercheurs d'emploi, nous accueillons des personnes. Et nous sommes là pour les accompagner dans leur parcours de vie. Le travail fait partie de la vie, la sphère professionnelle fait partie de la vie, mais pour autant n'est pas la vie. Et nous sommes là donc pour les accompagner dans leur cheminement et dessiner avec eux effectivement des intentions d'avenir, des projets d'avenir et construire avec eux les petits pas, les étapes pour mener à bien ces projets.
D'accord.
Après un parcours de vie mouvementé, on a besoin de se reconstruire et en même temps, on a une injonction à trouver un emploi. Comment on en parle à un potentiel employeur ? Pour vous, monsieur Thomas.
Je pense qu'il faut pas forcément parler de ce qui vous est arrivé dans la vie. L'employeur n'a pas besoin de savoir. Le parcours de vie de chacun peut entraîner des difficultés et avoir une période d'inactivité. Il ne faut pas forcément rentrer dans les détails, en fait, je pense. Appuyez-vous sur vos points forts, c'est-à-dire ce que vous avez fait auparavant, les formations, les diplômes que vous avez pu avoir. Et voilà.
D'accord, merci. Et pour vous, Madame Leroux ?
Je mets de côté ma première réponse. Je mets de côté le chantier d'insertion pour répondre par rapport à mon expérience perso aussi. Je vous rejoins. Alors, ça ne veut pas dire ne pas dire les choses, mais peut-être travailler en amont la manière dont on le dit, bien choisir les mots, bien réfléchir à comment je vais expliquer ce trou dans le CV, le fameux trou, bien réfléchir à comment on va le présenter. Ça ne veut pas dire le cacher, quoi. Après, nous, sur le chantier d'insertion, c'est encore une fois très différent, parce que nous, au contraire, les gens en entretien se livrent beaucoup et on est ouvert à ça, puisque c'est l'objet. C'est-à-dire, c'est quels sont vos problèmes dans votre vie ? Parce que, en fait, les problèmes de mobilité, les problèmes de logement, les problèmes de santé, surtout santé mentale, ça freine l'accès à l'emploi. Donc, nous, notre boulot, c'est d'accompagner les collègues pour lever, ça, c'est la terminologie, on lève les freins autant que possible pour aller vers l'emploi. Donc, on travaille ces questions-là en interne, la santé mentale. Si on n'est pas en capacité de se lever le matin, c'est difficile d'aller chercher du boulot. Donc, déjà, essayer d'avancer là-dessus, en se faisant accompagner. C'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Donc, en entretien de recrutement, les gens sentent facilement qu'ils peuvent nous exposer ces problèmes-là.
puisqu'on est là pour les aider. Donc, parfois, ça fait des entretiens poignants.
Je peux comprendre.
D'accord, merci. Voyons à présent avec Madame Le Fouest. Elle nous présente un dispositif France Travail et moi, avec une bénéficiaire, Béatrice, pour témoigner. Madame Le Fouest.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons élaboré avec mes collègues psychologues du travail un accompagnement, un parcours collectif intitulé Et moi, avec pour objectif effectivement de faire un petit pas de côté pour permettre aux bénéficiaires de se retrouver, de se reconnaître dans leurs priorités de vie, dans leurs forces, dans leurs valeurs. Et par extension, dans leur motivation, puisqu'il a été question de motivation tout à l'heure, pour définir justement leurs besoins, leurs attentes et les petits pas qui peuvent être entrepris pour cheminer de la façon la plus sécurisée possible. Force est de constater que bien souvent, je rencontre des personnes qui, bien qu'inscrites à France Travail, ne s'inscrivent pas vraiment dans une démarche ni d'orientation professionnelle ni de recherche d'emploi. Parce que parfois, c'est un peu prématuré. On a besoin de faire un point sur qui l'on est, ce que l'on va rechercher, comment on se situe dans son parcours de vie, quelles sont réellement les attentes à l'endroit du travail et qu'est-ce que c'est le travail, comment on le réfléchit, le contenu du travail, le contenant du travail, la façon dont on réfléchit le travail à 20 ans n'est pas nécessairement celle dont on va le réfléchir à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il est important de réquestionner les choses, de les réinterroger, de réinterroger effectivement ses motivations. Et de réinterroger effectivement, on en a parlé, la question du sens, des valeurs, qu'est-ce que j'attends du travail, si le travail est très important pour moi effectivement, et si je le mets sur 3, sur une échelle de 3, de 1 à 3, bien effectivement, qu'est-ce que ça recouvre réellement. Donc il convient de bien se connaître, de se reconnaître et de préciser les attendus que l'on a à l'endroit du travail.
D'accord, merci. Betty, un petit mot sur votre expérience ?
Mon expérience, c'est que j'ai été invitée par Suzanne Le Fouest à participer à l'atelier Et moi. J'étais avec 9 autres participants. Je crois que notre point commun, c'était qu'on avait tous eu, franchement, des vies, on va dire, très, très contrariées, des difficultés diverses et variées, que ce soit liées à la santé, à des expériences professionnelles passées. Pour ma part, c'était d'élever mes enfants en situation de handicap tout en parallèlement continuer à travailler jusqu'au moment où j'ai dû arrêter. Donc cet atelier a eu pour bienfait déjà d'être très bien conduit par Suzanne Le Fouest et Nathalie Jamier, donc les psychologues. Ensuite, on a tous été très heureux d'échanger. Ça vraiment nous a aidés. À se libérer de nos burn-out, je le prononce mal, personnels, et d'avancer. Et ce n'était pas d'avoir confiance en nous, c'était de reprendre confiance en nous. Et ça, c'est très compliqué. Et je crois qu'il y avait sans doute une belle émulation dans ce groupe. Il y avait également énormément de bienveillance de la part des psychologues et de la part des camarades qui étaient là. Et je crois pouvoir dire en leur nom, en tout cas en mon nom sûrement, qu'on a bien avancé dans nos reconstructions et dans la reprise de confiance en soi pour démarrer et redémarrer avec beaucoup de dynamisme et de joie même dans le milieu professionnel.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci, et grâce à cet échange, nous espérons avoir amené quelques clés pour aider dans la gestion et la prise en compte de la santé mentale. C'est un vaste sujet qui demande à être exploré, des prises de conscience, des espaces de parole afin d'échanger, d'étaboutiser, de normaliser, d'éduquer, etc. En espérant que cela vous aura apporté autant qu'à nous.
Vous avez été à l'écoute sur la radio Transistor pour l'émission des métiers et des sons, une émission pour et réalisée par des demandeurs et demandeuses d'emploi. C'est une découverte pour nous. Nous avons pu échanger, apprendre, avoir un nouveau regard, aussi bien du côté employeur-employé que sur les métiers de la radio. Merci de nous avoir permis de voir l'envers du décor, Cela nous a permis d'écouter de manière différente, de nous remobiliser, de sortir de l'isolement, d'avoir un espace de parole et d'échange sur un sujet qui nous touche.
Merci beaucoup à la Radio Transistor, à France Travail Quimper Sud, à la Mission Locale de nous avoir emmenés dans cette aventure radio. Merci aussi aux auditeurs et aux invités. Madame Leroux, directrice de la SIAE Structure d'insertion par activité économique, les maraîchers de la Coudray. Monsieur Thomas, directeur de l'entreprise de services à domicile Vitalliance. Madame Le Fouest, psychologue du travail France Travail. Aux témoins, Catherine, Pauline et Betty. Yann Le Guélec, directeur de l'agence. Alexia et Maxime de France Travail. Yann Simon, directeur de la radio Transistor. Et pour finir, Heidi, Martine, Aurélie, Martin, Andy et Yann. Nous vous remercions pour l'expérience que vous nous avez offerte. Ça a été un sacré challenge.
Ben, on vous quitte avec le dernier portrait sonore, celui de Andy.
Expérience professionnelle. Eh bien, ce que j'ai aimé faire consistait à rénover des anciens parquets, en les ponçant, puis en leur redonnant leur éclat d'antan. Cela me procurait énormément de plaisir. Si j'étais un son, cela serait en rapport avec les fréquences de basse, les beats. Pourquoi ? Car cela me remplit mon corps d'énergie, me fait sourire et une joie de vivre explose en moi. Qu'est-ce que vos collègues disent de vous ? Les personnes de mon entourage disent que je déborde d'énergie, que cela peut même parfois être épuisant. Une personne qui a le cœur sur la main est toujours à aider autrui. Quel serait le sel de ma vie ? Eh bien, le sel de ma vie est tout simplement ma famille. Sans elle, je serais perdu. La famille me donne la force de me battre tous les jours. Et puis le week-end, ce serait partir en rêve parti pour accentuer et donner encore plus de plaisir à ce combat.
Extramuros.
Extramuros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
I'm going to be turned